RCF.
Magazine régional sur RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes jusqu'à 19h et c'est en direct. Nous reviendrons bien sûr sur l'actualité et en particulier aujourd'hui pour cette journée assez éprouvante et tragique, en particulier pour les enseignants de l'Académie de Reims, mais de toute la France. Nous y reviendrons avec les cérémonies qui commémorent en tout cas la disparition de ce professeur assassiné à Arras. Alexis, il y a bien d'autres sujets que nous allons aborder dans cette édition.
Effectivement, nous serons notamment avec Claude Ruiz, notre chroniqueur, pour regarder sur le monde ce lundi. Bonsoir Claude.
Bonsoir.
De quoi nous parlerez-vous d'ici quelques instants?
On regardera au Moyen-Orient un petit peu comment se pratique ce regain d'instabilité.
On vous laisse vous chauffer la voix et on vous retrouve dans moins d'une minute. On sera également avec un maire, une maire qui vous parle, Jean-Pierre. Ce soir, on ira l'écouter de Joncher.
Oui, ce sera Nadine Poulain, qui est maire de Joncher-sur-Vel, dans le département de la Marne.
Ce lundi, il est également temps de faire le bilan des vendanges avec Sébastien Debuisson sur l'année 2023, les vendanges en Champagne, qu'on analysera la qualité et puis également le développement durable, puisque c'est le rôle de Sébastien Debuisson, un directeur qualité et développement durable au sein du CIVC. Notre invité ce soir sera aussi Denis Jaunet, vice-président du Centre Ressources de Reims. Denis Jaunet, que l'on connaît bien, il a de nombreuses casquettes, mais c'est avec celle-là qu'il viendra nous parler ce soir, notamment d'Octobre Rose et des actions qui sont menées par le Centre Ressources dans le cadre de ce mois Octobre Rose. Et puis fascinant week-end vignoble et découverte, c'est un rendez-vous que l'on vous donne à partir de vendredi et qui se déroulera tout au long du week-end prochain avec Juliette Delcourt qui viendra nous présenter ce grand moment. Jean-Pierre, c'est vrai qu'avant d'entrer dans le vif du sujet de ce magazine régional, vous en parliez il y a quelques instants, la journée de ce lundi a été particulièrement marquée par l'hommage rendu au professeur Dominique Bernard assassiné du côté d'Arras, mais également à Samuel Paty, 3 ans jour pour jour après son assassinat.
Absolument, Samuel Paty, dont on devait rendre auquel on devait rendre hommage aujourd'hui pour les 3 ans de sa disparition. Et puis vient se superposer cet événement tragique qui est survenu vendredi matin à Arras. Et bien sûr, tous les médias, toute la société, tout en particulier cette mini-société qui est constituée par l'Éducation nationale, est en émoi, que ce soit les parents, les élèves, mais aussi les personnels d'encadrement. Et puis, bien sûr, toute la communauté, comme on dit, la communauté éducative. Un peu partout, il y a eu des cérémonies d'hommage. Entre 8h et 10h dans les établissements, il y avait une discussion qui a été établie, puis un recueillement aux alentours de 10h. Et justement, un grand merci d'ailleurs à Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne qui était présent à Épernay en début d'après-midi, où le recteur d'Académie Vincent Stanek était présent avec le préfet de région et aussi avec toutes les autorités, bien sûr.
Notamment le président de la région Grand Est, Franck Leroy, Josiane Chevalier, la préfète.
De région,
tout à fait. Voilà.
Alors c'est vrai, on va pas détailler tout cela. Simplement, si on a 30 secondes, Claude Ruiz, vous êtes enseignant, et en plus enseignant en histoire, et on sait que l'assaillant d'Arras cherchait un professeur d'histoire. Sur ce sujet-là, pourquoi cette fixation, d'après vous, sur le professeur d'histoire?
Le professeur d'histoire, parce qu'il essaye d'éclaircir un petit peu l'ensemble de ce qui s'est passé dans le temps. Et à partir du moment où un certain nombre de personnes se fixent sur une compréhension un petit peu bornée, c'est le cas en réalité de tous ces mouvements, on va dire islamistes pour...
Terroristes, on peut dire aussi.
Oui, de façon globale. Et donc, le professeur d'histoire, lui, il essaye de mesurer la part de chacun des intervenants, chacune des langues,
Donc, il est un ennemi potentiel.
J'ai suivi ça il y a longtemps, puisque j'ai été secrétaire général de l'Association des professeurs d'histoire et géographie.
C'est pour ça que je pose la question. En France,
en France, bien sûr, et qui, a lancé un prix Samuel Paty.
Alors, on vous laisse au micro d'Alexis Claudresse, qui va, comme tous les lundis, en alternance avec Jean-François Boulanger, vous donner la parole.
Regard sur le monde, Claude Ruiz, bonjour.
Bonjour.
Un regain d'instabilité, l'actualité internationale se caractérise par un retour des tensions et des conflits au Moyen-Orient. Comment expliquer ces résurgences habituelles depuis près d'un siècle maintenant, Claude?
Oui, je crois qu'il faut voir la multiplicité des acteurs dans cet ensemble moyen-oriental. D'abord, il y a tout un ensemble d'États je dirais, états récents, même si pour certains, ce sont de vieilles civilisations qui se sont mises en place. Sur le plan politique, ce sont des états récents, avec des intérêts propres, ou du moins qu'ils mettent en avant, qui sont pas toujours, je dirais, des démocraties soit affirmées, soit composées, donc c'est quelque chose donc à apprendre, mais qui ont des approches qu'elles se construisent cohérentes, et chacun a donc ses intérêts. Alors on a des grandes puissances, bien entendu, la Turquie, qui est non-arabe, hein, dans ce Moyen-Orient où le monde arabe est quand même très largement représenté, qui joue un rôle parce qu'elle est une puissance économique. Vous avez l'Iran, alors c'est les mêmes chiffres démographiques, à peu près autour de 80 millions, entre 80 et 90 millions, donc ça fait des puissances, ce sont celles qui comptent dans ce Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, un peu moins peuplée, mais qui a d'une part les lieux saints de l'islam, et d'autre part qui a, je dirais, de l'argent, et qui essaye d'imposer aussi un modèle d'islam assez conservateur et qui a la base du financement. Et puis vous avez des pays qui sont puissants démographiquement comme l'Égypte, mais qui ont des capacités à la fois économiques et politiques relativement faibles. Donc ça, ce sont les grands pays. Et puis vous avez des États beaucoup plus petits, Jordanie, Liban, Syrie, tous fragiles, vous le savez, tous se sont mis en place progressivement pour l'essentiel après la Seconde Guerre mondiale. Et puis à côté, il y a bien entendu des mouvements revendicatifs sur les bases nationales ou religieuses, des mouvements qui sont très nombreux avec des projets politiques, j'allais dire, la plupart du temps non spirituels, mais qui instrumentalisent la religion. Et parmi eux, on a bien entendu des ultra-conservateurs, des frères musulmans. On a bien entendu des terroristes chiites ou sunnites. Hein, on les retrouve dans tous les camps. Et bien entendu, on les connaît par les noms de ces mouvements, ce qui font référence par exemple à la Palestine, comme le Hamas ou le Hezbollah.
Claude Ruiz, il semble que chacun des acteurs cherche à tirer profit d'une situation donnée. Ainsi, il semble que l'Iran cherche à tirer profit, par exemple, de l'épisode terrorisme-intervention à Gaza que l'on connaît actuellement.
Oui, je crois que l'Iran, qui est un monde, vous le savez, même sur la base religieuse chiite, donc le chiisme, c'est environ 15%. De l'islam mondial. Il cherche surtout à étendre son influence, puisqu'il a été quand même largement marginalisé sur l'histoire récente. Et bien entendu, il cherche, par exemple, sur ce problème palestinien, à stopper les liens entre Arabie Saoudite et Israël. Là, il y avait un petit rapprochement. Il ne faut pas que ce rapprochement se fasse au détriment de l'Iran. Et donc, vous le voyez, l'Iran a une propension à intervenir. Il a un atout au Liban avec le Hezbollah. Bien entendu, ne revendique pas, mais c'est quelque chose qui est présent, d'où les mises en garde américaines. L'opposition, on l'a dit, chiite, sunnite, est toujours présente, mais il y a aussi de nombreux groupes qui sont présents à peu près dans tous les États.
Justement, puisque l'on parle de l'Iran, peut-elle s'imposer sur l'ensemble du Moyen-Orient ?
Alors, l'Iran peut utiliser une diaspora qui est présente, mais j'allais dire un peu au cœur de ce Moyen-Orient, hein. C'est-à-dire la diaspora iranienne, elle se trouve avec le chiisme, elle se trouve en Syrie, elle se trouve en Jordanie, elle se trouve un peu au Liban. Et donc, elle surveille c'est une sorte de porte d'entrée, si vous voulez, hein, vers le sud pour l'Iran. Et bien entendu, elle représente une force de déstabilisation, puisque c'est en fonction de ses propres intérêts géopolitiques, pas seulement régionaux mais globaux, qu'elle intervient.
Il y a d'autres puissances que l'on doit bien évoquer lorsque l'on parle de ce contexte actuel. Quel est le jeu de la Russie au Moyen-Orient, Claude Ruiz ?
Alors, bien entendu, en une phrase, on ne peut pas résumer hein, ce jeu de la Russie, mais pour lui, c'est maintenir un maximum de liens, surtout en fonction d'intérêts généraux, puisque les relations en fait que la Russie est complètement coupée, en particulier avec les puissances occidentales. Elle a besoin de relais sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan d'intégration simplement à l'échelle de la planète. Et donc, elle intervient, je dirais, au cas par cas. Elle n'a pas d'approche globale. Elle intervient un petit peu donc au Liban pour, je dirais, essayer de d'avoir une présence vers la Méditerranée, puisque on lui ferme la mer Noire hein, de ce côté-là. Et puis il y a d'autres pays qui, eux, sont réceptifs des propositions russes, puisque le Liban, par exemple, ou la Jordanie, qui se méfie du monde palestinien, les Égyptiens, qui ont besoin d'aide financière énergétique, certains États du Golfe, qui ont besoin de normalisation, la Russie avance ses pions, si vous voulez, petit à petit, pas forcément de façon dominante, mais présente.
La stabilisation de la région, ce n'est pas pour demain, Claude Ruiz, vu les éléments que vous nous présentez et de ce que l'on voit, ce qui se passe encore aujourd'hui.
Oui, je crois qu'il manque une vision d'ensemble. Hein, vous l'avez bien compris, dans ce Moyen-Orient, tout le monde avance ses cartes. Il n'y a pas véritablement de chef et pas de véritable proposition, si vous voulez, géopolitique globale. Pour pouvoir avancer, il faut être capable de négocier. Pour négocier, ça veut dire qu'il faut avoir des avancées, il faut aussi avoir des reculés. Il faut accepter ce recul pour pouvoir trouver une position médiane. Donc, le risque pour le Moyen-Orient actuellement, c'est que du fait de ce foisonnement, il y a un risque de réaction un petit peu incontrôlée en fonction d'intérêts propres. Et ça, on ne sait pas où ça peut nous amener.
Eh bien, merci Claude Ruiz d'avoir été synthétique et de nous avoir éclairé sur la situation au Moyen-Orient. On vous dit à très bientôt pour Regarder sur le monde, Claude Ruiz.
Au revoir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h22 sur RCF en région avec nos amis de RCF Cœur de Champagne, de RCF France-Ardennes. Jean-Pierre, toujours avec nous.
Bien sûr.
Et vous le savez, à 18h22, vous allez retrouver un maire en ligne avec vous par téléphone. Nouvelle semaine, nouveau lundi, nouveau maire qui nous parle donc. Aujourd'hui, Nadine Poulain de Joncherie-sur-Vel est en ligne avec vous, Jean-Pierre.
Nadine Poulain, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît, bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes maire de Joncherie-sur-Vel. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter en quelque sorte un peu rapidement, parce qu'on n'a que 9 minutes, mais déjà votre commune, Joncherie-sur-Vel, une belle commune. Hein.
Alors Joncherie-sur-Vel est située sur la RN31, environ 15 km de Reims. C'est une commune de 1910 habitants. Une commune de petite superficie, mais qui présente tous les services possibles, que ce soit les médecins, le paramédical, les commerces, les écoles. Et nous avons aussi le train qui permet aux personnes de la commune de se rendre à Reims et aux étudiants et aux lycéens. Voilà.
Alors c'est vrai que vous êtes maire depuis combien d'années, Nadine Poulain? Depuis quelques années déjà?
Oh non, depuis 2020, ça fait
depuis 2020.
Ans.
Mais vous étiez déjà au conseil municipal, vous avez toujours été intéressé quand même, j'allais dire, par la chose publique. Ça vous intéresse, vous étiez un peu passionné de votre commune.
Tout à fait. J'étais déjà au conseil municipal précédent et en plus, j'étais secrétaire de mairie pendant plus de 18 ans dans la commune et dans les petites communes autour.
Ça veut dire que vous connaissez quand même tout le monde, hein, à vrai dire.
Tout le monde, c'est un bien grand mot. Vous savez, ça change quand même, il y a un turnover dans la commune, donc on connaît beaucoup de monde. Je dirais pas tout le monde, 1900, ça fait beaucoup quand même.
Oui, ça fait beaucoup, c'est près de 2000 habitants. Alors justement, est-ce qu'on peut caractériser votre commune aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des agriculteurs? Est-ce que les gens travaillent à Reims? Est-ce qu'il y a aussi des arrivées de nouveaux venus qui s'installent à Joncherie?
Alors pour le moment, on n'a pas de nouveaux lotissements, ce qui devrait être le cas dans quelques années. Ce sont essentiellement des gens qui travaillent sur Reims et on a aussi environ 400 personnes de plus de 70 ans.
Et donc c'est une commune vivante, vous-même vous avez toujours été passionné, j'allais dire comme on dit souvent, c'était peut-être un peu déjà dans votre ADN de vous occuper d'une mairie.
Alors m'occuper d'une mairie, je ne sais pas si c'était dans mon ADN, mais faire partie des associations, oui très certainement depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours fait partie d'associations et donc bon, tout naturellement, ça s'est terminé en haut du village.
En haut du village, là-bas, comme maire de Joncherie. Alors, il faut dire aussi qu'un maire est très souvent sollicité. Il y a même des maires qui refusent maintenant de prendre cette responsabilité parce qu'ils trouvent que c'est vraiment une charge. Vous partagez ce sentiment que c'est quand même lourd quand même.
Alors, moi, c'est un petit peu particulier parce que je suis en retraite. J'ai beaucoup de temps libre. Donc, je me consacre beaucoup à ma commune. Et ça ne me pèse pas parce que j'aime vraiment ce que je fais. Je suis passionnée du village. Mais je comprends que certains maires, par exemple, quand il faut mener et la mairie et une profession à côté, ça doit être très difficile.
Alors, vous êtes souvent sollicité. Qu'est-ce qu'on vous demande ? Souvent des petits services ? On vous demande des renseignements ? Quand les habitants vous interpellent ?
Oui, alors c'est souvent, on me dit, mais qu'est-ce qu'on peut y faire en mairie ? Moi, j'y vais pas souvent. Eh bien oui, en mairie, on a beaucoup de passages, on a beaucoup de téléphones. Et les personnes se rendent, essaient de s'intéresser aussi à la vie du village. Donc, on nous pose des questions sur la réfection des rues. Il y a beaucoup d'urbanisme aussi, et puis de l'état civil. Et puis, j'avoue que je ne suis pas trop dérangée en dehors des heures de mairie. Et j'essaie de répondre à toutes les questions. C'est tellement varié que je ne pourrais pas vous faire...
C'est très varié.
Vous donner un échantillon.
C'est très varié, Nadine Poulain. Alors, c'est vrai aussi qu'il y a les communes, mais il y a maintenant les communautés de communes. Il y a aujourd'hui le Grand Reims. C'est vrai que ça a changé un petit peu la donne, mais que la mère reste quand même un peu... Bon, c'est un peu familier, mais la patronne chez elle quand même, malgré tout.
Moi, je considère que c'est vrai, je reste toujours maire du village avec des décisions à prendre. On a perdu certaines compétences, mais voilà, il faut faire la part des choses. Si on avait gardé ces compétences, je ne sais pas si financièrement on pourrait, par exemple, refaire une rue. Ça coûte aujourd'hui énormément, donc il faut prendre les avantages et les inconvénients.
Et aujourd'hui, justement, on peut examiner des projets qui sont en cours, ou qui viennent de se terminer, ou d'autres qui sont sur le gris. Vous avez plusieurs choses en ce moment que vous préparez ou qui viennent de se terminer?
Alors justement, quand on parlait de la communauté urbaine, aujourd'hui, on a en prévision la construction d'une école élémentaire, puisque celle que l'on a aujourd'hui est un peu trop étroite pour le nombre d'enfants. Donc merci, parce que sinon on ne pourrait pas le faire nous-mêmes. Vous avez dû entendre qu'il y avait une nouvelle gendarmerie.
Et oui, justement, je voulais vous interroger. Ça, une nouvelle gendarmerie, ça va quand même aussi changer aussi la donne.
Ah tout à fait, même au niveau de la sécurité, au niveau du village. En plus, elle va s'implanter sur une friche commerciale. Donc nous sommes vraiment très contents.
Il va y avoir des nouveaux arrivants aussi. Avec la gendarmerie.
Quelques nouveaux habitants, des gendarmes, et puis à la suite, un lotissement. Donc effectivement, on va avoir des nouveaux arrivants.
Ça, voilà. C'est une bonne nouvelle pour Joncherie. Une bonne nouvelle pour la commune.
Ce projet, par contre, sera porté par Reims Habitat et Mocop, parce que c'est eux qui auront la charge de la construction. En ce qui concerne la commune, notre gros projet de cette année, c'est la vidéoprotection. Donc il y aura l'installation d'une vingtaine de caméras dans la commune. Ça va débuter très bientôt.
Beaucoup de projets, beaucoup de choses en route. Une question qui vient souvent qu'on pose aux maires, c'est qu'après le Covid, on a vu un certain nombre de gens qui étaient sur Reims ou dans la ville qui voulaient quand même habiter peut-être à la campagne. Vous l'avez, vous, observé, cette forme nouvelle d'arrivée ?
Alors, on a surtout des personnes qui souhaitaient effectivement venir s'installer dans la commune. Mais compte tenu aujourd'hui du coût de
transport,
l'emprunt et du coût des maisons, c'est très difficile. Et pendant un temps, on ne savait même pas qu'une maison était à vendre. Aujourd'hui, on en a quand même quelques-unes.
Ça veut dire que là, c'est les taux d'intérêt qui jouent, les banques qui prêtent. C'est pas tellement le transport, finalement, parce qu'il y a aussi le coût du transport quand il faut se déplacer en voiture, mais c'est pas forcément ça non plus. C'est le coût quand même de l'habitation.
C'est certain. Oui, le transport, c'est vrai qu'on a 15 km à faire pour aller à Reims, donc c'est pas forcément ça qui... On a le train aussi, donc c'est une alternative. Mais c'est surtout le coût aujourd'hui avec les taux d'intérêt élevés et puis...
Absolument. Voilà. En tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui, ça passe très très vite. Simplement, dans les semaines, dans les mois qui viennent, n'hésitez surtout pas à faire appel à nous, car en dehors de cette émission, on pourra bien sûr donner la parole, parce que quand la gendarmerie viendra, etc., il y a des superbes émissions à faire. Et la dernière question qu'on pose toujours à tous les maires, êtes-vous une mère heureuse quand même, malgré toutes les difficultés ?
Eh bien oui, malgré toutes les difficultés, je suis une mère heureuse, parfois un peu débordée quand même, Mais la fonction de maire est tellement enrichissante et passionnante que je ne peux être que contente. En plus, la fonction de maire, c'est qu'on l'a bien voulu, hein. On ne nous force pas à être maire, hein. Donc, je pense que si on y trouve plus son intérêt, effectivement, ça pose des problèmes. Mais moi, aujourd'hui, je suis une mère heureuse.
Merci, en tout cas, Madame Nadine Poulain, qui était avec nous aujourd'hui dans l'émission Votre Maire nous parle, et qui est maire de Joncherie-sur-Vel, dans le département de la Marne, à une quinzaine de kilomètres de Reims. Merci beaucoup, Madame la maire, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis à très bientôt sur RCF.
Bien sûr, merci à vous.
Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci à vous également, Jean-Pierre. On vous laisse souffler 10 secondes.
Oui, je souffle 10 secondes, mais je reprends tout de suite mon souffle pour annoncer qu'on vous retrouve dans une poignée de secondes à votre tour pour le journal d'information régionale qui sera marqué ce soir par les hommages rendus au professeur assassiné à Arras.
Dans le restant des titres développés ce soir, le grand rendez-vous national déployé en région, la semaine d'émissions locales revient en 2023 et devient un événement majeur et incontournable du réseau. Focus aujourd'hui sur la mission locale de Troyes dans l'Aube. Le cinquième tour de la Coupe de France de football en région avait des allures de derby avec la rencontre opposant le club sportif Sedan-Ardennes à Reims-Sainte-Anne. Samedi, les visiteurs ont empoché la qualification au bout du suspense, 3-2.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Trois jours après l'assassinat de Dominique Bernard, professeur de français à Arras, et 3 ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire, un hommage suivi d'une minute de silence leur a été rendu dans tous les établissements scolaires de France, aujourd'hui à 14h. Vincent Stanek, recteur de l'Académie de Reims, s'est rendu au lycée Essel d'Épernay.
C'est un moment essentiel, d'abord pour manifester notre émotion, mais aussi pour manifester notre volonté, notre résolution d'être ensemble, notre résolution de poursuivre la mission de l'école, montrer que l'école est debout et que nous sommes résolus à défendre nos valeurs. Les élèves ont été acteurs de cet hommage, ils ont lu un poème d'Éluard consacré à la liberté, suite à quoi les personnalités présentes ont rendu quant à elles aussi l'hommage, qui sont tous unis ensemble pour manifester leur solidarité. Toute la communauté éducative a été évidemment sous le choc et bien entendu la sécurité des élèves, la sécurité des établissements doit être notre priorité. Des consignes ont été données pour relever le niveau de vigilance pour les contrôles des accès des établissements. Le ministère a pris des mesures et a décidé que des personnels supplémentaires allaient être dédiés à cette sécurité. Et enfin, nous allons renforcer nos discussions avec les collectivités pour envisager toute mesure qui permettrait d'améliorer les conditions de sécurité. La sécurité des établissements doit rester une priorité.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten, le président de la région Grand Est, Franck Leroy, et le préfet de la Marne, Henri Prévost, étaient également sur place à lundi spécial pour les enseignants et les élèves. Lily et Baptiste de la classe de défense témoignent au micro de RCF.
C'est assez spécial quand même. On a surtout parlé avec les profs de ce qui s'était passé et de ce dont ils avaient parlé de 8h à 10h du coup. On a discuté de la sécurité du lycée un peu, qu'il y a eu d'autres événements qui ont fait que ça se remet beaucoup en question. Puis un petit peu du prof aussi qui s'est fait assassiner.
C'est vrai que c'est surprenant parce qu'on ne pense pas forcément à s'attendre à ce qu'un prof soit attaqué dans l'école en plus. On a l'impression qu'il y a des problèmes de sécurité un peu, peut faire un peu peur à certains élèves. Moi, pas forcément, mais c'est vrai que ça fait déjà quand même beaucoup depuis Samuel Paty et encore Bernard là qui s'est fait attaquer. C'est un peu triste quand même.
Il y a déjà eu l'intrusion il y a une dizaine de jours. Et là, le fait qu'on retouche encore à l'éducation nationale, on commence à se poser des questions, quoi.
À noter que les mesures de sécurité sont aussi renforcées évidemment dans les établissements scolaires. Les 43 missions locales du Grand Est accueillent plus de 77 000 jeunes chaque année. Elles les accompagnent sur des thématiques variées telles que l'emploi, le logement ou la santé. C'est dans ce contexte que les missions locales de la région se mobilisent à travers un événement national pour mettre en avant leur expertise dans l'accompagnement. Cette année, elles proposent des activités ou ateliers sur un thème commun, volontaire large, dessiner son avenir en toute confiance. Exemple à Troyes avec une réalisation de la fresque murale en 2 temps, comme nous l'explique Aline Mercier, chargée de communication de la mission locale de Troyes.
un premier temps où en fait les jeunes ont rencontré les deux artistes, Loïs et Jérémy, qui font partie de l'association Mur Vivant, et ils ont commencé à réfléchir ensemble aux éléments qu'ils allaient vouloir faire apparaître sur la fresque. Ils ont fait des croquis, des dessins, tout ce qu'ils avaient envie d'exprimer en fait sur cette fresque. Et ensuite, tout va être mis ensemble en fait, constitué vraiment un visuel. Et ils vont pouvoir la reproduire sur le mur de la nouvelle mission locale et réaliser devant la fresque en vrai. L'objectif, c'est d'avoir un atelier innovant. On est souvent dans les ateliers de recherche d'emploi, de CV, de lettres de motivation. Et là, on avait envie d'amener un petit peu d'outils plus sympathiques. Trouver un moyen d'exprimer ce que représente la mission locale pour eux, à travers leurs yeux plus jeunes certainement que les nôtres. On avait vraiment envie d'impliquer les jeunes dans ces nouveaux locaux aussi.
Témoignage recueilli par Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne. Le prochain atelier aura lieu demain après-midi de 14h à 17h à la mission locale de Troyes. D'autres rendez-vous sont organisés jusqu'au 20 octobre dans les autres missions locales près de chez vous. La première édition du Reims Champagne Run a réuni près de 14 000 coureurs ce week-end à travers différentes épreuves telles que le 10 km, le trail à travers les vignes et le semi-marathon. Benjamin Debloch a remporté cette dernière catégorie en 1h09 et 25 secondes, tandis que Marina Vachia termine première féminine en 1h22 et 38 secondes. Dans un mini-derby comptant pour le cinquième tour de la Coupe de France de football opposant le club sportif Sedan Ardennes qui évolue en Régional 3 et la formation de Reims-Sainte-Anne qui évolue en National 3, il n'y a pas eu de surprise. C'est le favori Rémois qui l'a emporté dans un match très disputé. Victoire 3-2. Le coach de Sainte-Anne, Hervé Papavero, retenait la qualification de son équipe, mais pas spécialement la manière.
On s'attendait à un match compliqué, il a été au-delà de nos espérances très très compliqué, on passe vraiment par la petite porte. Ils ont eu l'opportunité de pouvoir tuer le match sur 2-3 contre-attaques en deuxième mi-temps, où c'est vrai qu'on a changé de système puisqu'on a joué un peu le tout pour le tout, et ils n'ont pas su être réalistes au moment où ils auraient pu passer ce sixième tour. Alors je les félicite vraiment, parce que c'est vraiment une belle équipe, hein, je n'en doutais pas. Et on est plutôt contents. En même temps, moi je suis un petit peu déçu de la prestation de mes joueurs, et plus particulièrement de certains joueurs. Voilà, on a le mérite de revenir, de pousser, et je pense que la grande différence, elle se fait pratiquement uniquement d'un point de vue athlétique par rapport au rythme du championnat national 3. Voilà, donc on est content d'être passé, mais franchement, félicitations à Sedan, et je leur souhaite le meilleur pour le championnat et pour les années qui arrivent.
Côté sudanais, on était entre déception de l'élimination et fierté d'avoir tenu tête à un groupe sportivement supérieur, l'entraîneur Amadou Kaba.
Ouais, beaucoup de regrets. Après, voilà, on avait bien préparé cette semaine et bien préparé ce match. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est déjà, dans un premier temps, se situer, savoir où on en était, savoir si notre groupe avait un potentiel un peu plus que la R3. Je pense qu'aujourd'hui, on a des certitudes que voilà, ce groupe n'a rien à faire en R3. Après, bien évidemment, l'adversaire était de taille. Je pense qu'on a fait une très bonne entame de match. Et on est un peu puni sur ce coup de pied arrêté là. Après, l'idée, c'était de repartir sur quelque chose de beaucoup plus cohérent et dans la continuité de ce qu'on fait depuis quelques temps. Et puis après, voilà, ça a payé. En mi-temps, on a réajusté de 3 points. Et puis, je pense que les pénalties qu'on met sont très bien amenées. On a 2-3 balles de 3-1. Et puis, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que voilà, je pense que si on marque ce but-là, le match est totalement différent. Après, maintenant, on regarde le groupe d'aujourd'hui, c'est encore quoi? C'est encore 7 U18. Voilà, quand on est à l'extérieur, on sait qu'on aura un apport technique sur un peu, mais tout ce qui est charge émotionnelle et autres, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que je pense que Tom Moreau, qui a des situations de 3-1, fait bien les courses. Mais après, voilà, c'est la jeunesse qui a parlé malheureusement contre lui.
Des propos recueillis par notre correspondant sur RCF France-Ardennes, Maxime Bettemal. Football toujours en D1 Arkema, la première division féminine. Le PSG recevait le Stade de Reims alors qu'il y avait 0-0 en début de deuxième période. Le match a été interrompu définitivement suite à des jets de feux d'artifice venus de l'extérieur du stade. Les autres résultats en sport collectif ce week-end sont autour du basket avec en National 2 masculine un derby entre Recy-Saint-Martin près de Chalon et l'Étoile de Charleville. Mézières. Les locaux ont gagné 75-65. Le Champagne Basket a raté son entrée en Pro B en s'inclinant sur son parquet après prolongation 77-82 face au Stade Rochelet. En Ligue féminine de basket, les Flammes Carolo ont concédé leur première défaite de la saison pour leur premier déplacement à l'occasion de la quatrième journée. Revers 75-45 à Basketland. Les Ardennaises sont tout de même cinquième du championnat. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne-Ardenne continue sur RCF.
le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Et on part une première fois dans le vignoble. Ce soir, on y retournera tout à l'heure avec Sébastien Debuisson pour faire le bilan de la vendange 2023. Mais pour l'heure, on vous dit que 52 acteurs du tourisme labellisés Vignobles et Découvertes de la Marne, de l'Aube et de l'Aisne, coordonnés par l'Agence de développement touristique de la Marne, vous ouvrent leurs portes pour un week-end festif à l'occasion du fascinant week-end du 20 au 22 octobre. Un événement œnotouristique national devenu incontournable en Champagne. Un programme riche d'un peu plus de 47 manifestations ouvertes au grand public, les précisions de Juliette Delcourt, attachée de presse à l'Agence de développement touristique de la Marne.
Juliette Delcourt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'attachée de presse de l'Agence de développement touristique de la Marne et aujourd'hui, vous êtes avec nous parce que vous allez nous parler du fascinant week-end. Qu'est-ce que c'est que ce fascinant week-end ?
Le fascinant week-end Vignobles et Découvertes, c'est un week-end qui regroupe tous les prestataires, une partie des prestataires Vignobles et Découvertes du département, qui propose pour l'occasion des manifestations uniques. En fait, il y a des regroupements de prestataires qui proposent des petites animations et donc il aura lieu du 20 au 22 octobre cette année.
Combien d'acteurs vont y participer ?
Cette année, on a 52 acteurs du tourisme qui sont donc labellisés Vignobles et Découvertes dans le département de la Marne, de l'Aube et de l'Aisne.
Donc ça fait du monde sur ce week-end de 3 jours.
Oui, c'est ça. Donc 52 acteurs et au total, ça va nous faire environ 47 manifestations.
47 manifestations, eh ben ça promet. Vous allez peut-être nous les décrire quelques-unes dans plusieurs secteurs.
Alors, par exemple, sur Épernay, il y aura une expérience spéciale enfant avec la création de mini-montgolfières, la réalisation de bouchons en chocolat et accord avec jus de raisin.
Bon, ça doit être bon, ça.
Voilà. À Vincelles, il y aura le yoga du rire, un moment de rire et de détente au champagne Pio Sevillano. À Chalon, en Champagne, il y aura 3 œuvres, 3 champagnes, un voyage entre art et bulle. À Mutigny, une sortie au flambeau avec dégustation sur le sentier du vigneron. Prouilly, une balade truffière et accord avec le champagne Malingre Truchon. Et encore, plein d'autres animations.
Alors, dans mon secteur, qu'est-ce que je peux aller faire ?
Donc, sur Vitry-en-Pertois, il y aura une balade gourmande et commentée, Bulle et Belle Vie.
Et dans l'Aisne, par exemple ?
Alors, dans l'Aisne, donc on a sur Château-Thierry, Champagnez-vous, avec une immersion au cœur du festival œnotouristique. Et également à La Neuville-sur-Seine pour une randonnée nocturne organisée par le comité Saint-Vincent local. Donc là, pour les départements voisins.
D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour participer à l'une de ces 50 actions ?
En fait, vous retrouvez tout le programme complet sur le site internet vignobledécouvertechampagne.com. Les prix sont variables selon les activités. Vous avez également les modalités, en fait, quand il faut s'inscrire. Voilà, tout se trouve sur le site internet vignoble-découverte-champagne.com.
L'agence de développement touristique, Juliette, elle va nous faire découvrir plein de choses dans les mois à venir.
Dans les mois à venir, oui, vous pourrez nous retrouver sur le salon Destination Marne, un petit peu avant la saison touristique, pour faire le plein d'idées pour tout ce qu'il y a à découvrir dans le département. Donc les dates seront très vite confirmées.
Eh bien Juliette Delcourt, merci. Je rappelle que vous êtes l'attachée de presse de l'Agence de développement touristique de la Marne.
Des propos recueillis par Gérald Gaillet de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. En 2022, il y avait eu 1500 visiteurs, ce qui fait vraiment un week-end devenu un temps fort incontournable de l'automne champenois. Il fédère les acteurs et permet aux locaux et aux visiteurs de passage de vivre une expérience unique dans notre vignoble en prolongeant la saison touristique. Information pratique, vignoble-découverte-champagne.com.
Le 18-19 sur RCF.
Et à 18h45 sur les ondes de RCF en région, on prend la direction du Centre Ressources de Reims avec son vice-président Denis Jonnet qui nous attend par téléphone. Denis Jonnet, bonjour.
Bonjour Alexis.
Le centre ressources, vous l'expliquerez mieux que moi, mais c'est un centre qui permet d'accompagner les malades de cancer, de tout type de cancer. On est au mois d'octobre, on pense à Octobre Rose. La spécificité de ce mois, c'est de lutter contre le cancer du sein. Et dans ce cadre, on aura l'occasion évidemment de donner une genèse d'ici quelques instants d'expliquer ce qu'est exactement le centre ressources. Mais dans ce cadre, le centre ressources propose des actions pour accompagner les personnes malades et notamment qui luttent contre le cancer du sein.
Oui, tout à fait. Hein. Nous, en fin de compte, on s'occupe des personnes qui sont atteintes de tout cancer, hein, que ce soit pendant la phase de traitement ou après. Hein. L'hôpital soigne la maladie et le centre ressources a pour objectif d'accompagner la personne, le bénéficiaire, la personne qui est touchée par le cancer, de lui redonner confiance, de la rendre plus forte, justement pour guérir.
Et justement, cet accompagnement, Denis Jeunet, il faut bien le dire, il est totalement gratuit. Vos revenus, vous, c'est grâce à des partenariats, notamment des mécènes que vous pouvez proposer cette association et ses services, mais la personne malade n'aura pas à débourser de sous en plus.
Oui, tout à fait. C'est la spécificité du centre ressources, hein, qui est situé en dehors des structures médicales, et qui est complètement gratuit. Hein, on adhère au centre ressources gratuitement, et en plus, on accueille les aidants. Ça veut dire que la personne touchée par le cancer peut venir avec un aidant, et l'aidant peut bénéficier aussi des mêmes activités que le bénéficiaire.
Denis Jeunet, il faut dire que ce centre ressources, ce n'est pas une nouveauté dans le paysage rémois. Il a déjà 7 ans d'existence et il y a quelques mois, nos auditeurs s'en rappellent sûrement, vous étiez avec nous pour nous présenter des nouveaux locaux. Désormais, on vous retrouve au 38 bis rue de Courlancy. Comment s'est passée cette intégration dans les nouveaux locaux? On imagine des locaux plus grands, plus spacieux, pouvoir partager encore plus de bonheur avec ces personnes malades et leur donner un petit peu de joie, un petit peu de sourire comme sur RCF, la joie se partage, Denis Jeunet.
Oui, tout à fait, hein, c'est ça. C'était des locaux plus spacieux déjà pour accueillir encore plus de bénéficiaires et aussi développer de nouvelles activités. Parce qu'on a lancé aussi cette année le quatrième pilier de nos activités qui est basé sur l'art-thérapie.
Hein, c'est-à-dire, Denis Jeunet?
Voilà, comment?
C'est-à-dire l'art-thérapie, qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors c'est tout ce qui est activité autour de l'art, ça peut être de la du dessin, de l'écriture, ça peut être du modelage, ça peut être de l'art floral, c'est tout ce qui est autour de la création et qui est très bénéfique pour les personnes touchées par le cancer, qui oublient pendant leur activité, qui leur redonnent confiance hein, quand ils font ce type d'activité. Donc c'est un pilier qu'on est en train de développer hein, depuis qu'on est situé au 38 bis rue de Courlancy. Alors c'est vrai que le lieu est quand même plus sympa. On s'aperçoit concrètement qu'il y a de plus en plus de bénéficiaires qui viennent. Il est très accessible. Il y a un arrêt de tram à 50 mètres. On peut stationner au parking du stade de Reims à 300 mètres. Il y a un bus aussi qui dessert le centre. Donc, il est totalement central. Et depuis, c'est vrai qu'on est très satisfait de ce nouveau lieu hein, pour écrire une nouvelle histoire du centre, en fin de compte.
Vous avez parlé cependant, Denis Jeunet, vice-président du Centre Ressources de Reims, de 4 piliers. On a bien compris qu'il y a ce nouveau qui se développe. Il y en avait déjà 3 autres. Sans rentrer dans les détails, peut-on les nommer?
Le premier pilier qui est essentiel, c'est déjà la gestion des émotions à travers des activités comme la sophrologie, la réflexologie plantaire, le Qigong. Ça sert justement parce que quand on est victime d'un cancer, il y a plein d'émotions négatives qui sont en nous. Et là, ça sert à faire sortir les émotions négatives. C'est le point de départ. Après, la deuxième pilier, c'est l'activité physique adaptée. Justement, hein, on peut faire de la gym adaptée, de l'escalade, de la danse. Hein, il y a quand même pas mal d'activités. Troisième pilier, la nutrition. Hein, il faut bien se nourrir pour justement mettre toutes les chances de notre côté pour guérir.
Et donc le quatrième pilier, vous l'aviez présenté il y a quelques instants, c'est l'art-thérapie, Denis Jaunet. Il faut dire que le Centre Ressources de Reims était une association dynamique, mais qui a besoin d'être soutenue, qui a quelques besoins. Pouvez-vous les nommer ?
Bah, disons que comme on offre la gratuité à tous nos bénéficiaires et les aidants à ce centre, il faut bien sûr notre besoin majeur, c'est le financement du centre, hein, parce qu'on a des charges de location, on a une demi-salariée, donc le financement du centre se fait par des dons, du mécénat d'entreprise, des fondations qui nous aident, des partenaires aussi locaux, hein, des structures comme la ville de Reims qui nous aide beaucoup. Et puis on reçoit aussi du budget lors d'organisation d'événements, comme le Lions Club de Reims qui nous organise depuis, ça va faire la troisième année, une compétition de golf à Gueux au profit du centre. Donc voilà, il y a tout type de rentrées d'argent qui sont utiles pour nous et essentielles.
Des moyens financiers, mais aussi des moyens humains, avec des bénévoles qui pourraient adhérer à votre cause, j'allais dire.
Ah voilà, c'est le deuxième point important. Hein, on recherche encore des bénévoles. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'associations qui recherchent des bénévoles. On recherche des bénévoles pour des activités d'accueil, bien sûr, tout simplement, mais aussi des bénévoles qui peuvent nous aider dans la communication, aussi dans la recherche de partenaires, dans le montage de dossiers, hein, suite à des appels à projets. Donc là, et puis bien sûr, on recherche des bénévoles thérapeutes, hein, qui viennent donner de leur temps, hein, pour les bénéficiaires.
Et Denis Jaunet, si jamais des auditeurs, des auditrices ont été convaincus par votre témoignage, comment ils font pour prendre contact avec vous avant que l'on referme la page avec vous dans ce magazine ?
Alors c'est simple. Il faut contacter le centre ressources au 03 26 35 47 05 ou alors venir au centre ressources qui est ouvert de 14h à 18h du lundi au vendredi. Hein, vous verrez, ce sera l'occasion de visiter le centre. Hein, il ne faut pas hésiter à venir échanger avec les bénévoles existants. Hein, donc on est bien au 38 bis rue de Courlancy, au 4e étage. N'hésitez pas à venir nous rencontrer.
Merci Denis Jaunet, vice-président du Centre Ressources de Reims, d'avoir été avec nous. Soit on vient au 38 bis rue de Courlancy, 03 26 35 47 05 pour le numéro de téléphone. À bientôt Denis Jaunet et bon courage pour ce combat qui continue chaque jour.
Merci Alexis.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
On vous avait promis de retourner dans le vignoble. Les vendanges 2023 en Champagne sont terminées. L'heure d'établir un bilan sur le rendement et la qualité de la récolte avec Sébastien Debuisson, directeur qualité et développement durable au CIVC, comité interprofessionnel du vin de Champagne. Il est en ligne avec Christopher Fausten.
Sébastien Debuisson, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ligne sur RCF pour évoquer donc ces vendanges, le bilan des vendanges 2023. Alors, avant de rentrer dans les détails, comment qualifiez-vous dans un premier temps ces vendanges en Champagne pour cette année ?
Difficile cette année de qualifier ces vendanges. Elles sont un peu extrêmes. On a à la fois de la qualité et parfois des défauts. On a de la déception et puis de la satisfaction, des très belles vendanges et des vendanges difficiles. Donc on a un peu qualifié cette vendange un peu d'oxymore, c'est une vendange un peu douce amère où on a beaucoup de satisfaction sur certains points et puis pas mal de choses en fait à régler d'un point de vue quantité, qualité. Donc c'est une vendange un peu douce amère, oui.
Face aux aléas climatiques, justement, quel bilan faites-vous sur le plan qualitatif ?
Bah, sur la qualité, en fait, on a deux couleurs de cépages, hein. Donc les cépages blancs, les cépages noirs. Les cépages blancs, ça s'est très très bien passé avec une quantité assez largement suffisante, hein, et puis une qualité tout à fait au rendez-vous, avec des degrés supérieurs à 10, très peu de pourriture, un peu d'odium à gérer dans les parcelles, donc il y a une maladie effectivement qui se traduit sur les raisins, mais qui était très facilement gérée, et sur les premières dégustations, en fait, des chardonnays qui se dégustent très très bien. Après, en fait, pour les pinots et les meuniers, c'est un peu plus contrasté. On avait du volume, on avait une problématique en fait de dilution un peu du degré, donc des degrés qui n'étaient pas très élevés, et puis le développement de pourriture grise et de pourriture acide. Donc au final, en fait, ça nécessitait beaucoup de tri, beaucoup de vigilance de la part des vignerons pour choisir leur circuit de cueillette. Donc on a pu aller chercher en fait quasiment le meilleur parce qu'on avait une quantité qui a pu permettre le tri. Mais ça a été nettement plus difficile que sur les chardonnays.
Donc malgré le tri, on va évoquer la quantité dans quelques instants, mais malgré le tri, par rapport à ces maladies et tout ça, les choses se sont plutôt bien passées globalement.
Bah globalement plutôt bien, c'est pas clairement sur ces cépages noirs, c'est pas l'année du siècle, hein, mais c'est pas non plus une mauvaise année. Donc ça sera une année tout à fait correcte, sans excès, oui.
Alors Sébastien de Buisson, on parlait de maladie il y a quelques instants. Il y a une maladie qui s'étend sur l'ensemble des vignes depuis de nombreuses années, depuis 2017. Est-ce qu'on peut l'évoquer et surtout, est-ce qu'on peut voir un petit peu les missions, comment vous allez mener justement pour lutter face à cette maladie qui persiste hein, sur les vignes de Champagne?
Alors cette maladie, c'est la flavescence dorée hein, qui est apparue en Champagne donc en 2017, donc détectée la première fois à Sedoix. Mais en fait, la flavescence dorée, c'est comme le Covid, donc il y a différents variants. Et depuis 2020, on a le variant qu'on qualifie d'hyperépidémique, qui se développe d'un facteur 10 à 20 tous les ans. Donc un pied atteint, après c'est 10 pieds, c'est 100 pieds, c'est 1000 pieds, c'est 10 000 pieds. Donc au bout de quelques années, donc ça peut ravager le vignoble. Donc aujourd'hui, ce variant, on l'a détecté sur deux communes, sur la commune en fait de Trélu-sur-Marne et sur la commune de Vertoulon. Et il s'étend parce qu'il faut arracher les pieds, il faut prospecter. Ça nécessite beaucoup de mesures sous forme d'arrêté préfectoral. Mais aujourd'hui, en fait, la maladie en fait se développe parce qu'on doit prospecter plus et sur l'ensemble des communes de la Champagne, notamment dans la vallée de la Marne.
Qu'en est-il du rendement, Sébastien de Buisson?
Le rendement, donc aujourd'hui, c'est quasiment des rendements records. Donc on est en train de l'établir pour savoir si ça sera vraiment le record ou pas. Mais on a un rendement record qui n'est pas lié au nombre de grappes, parce que le nombre de grappes est même plus faible que 2022, donc un peu moins de 10 grappes au mètre carré avec les fourrières déduites. Par contre, on a explosé un record, c'est le poids des grappes. Le dernier record date de 2005, on avait 171 grammes en moyenne par grappe, et cette année, on a des grappes qui frôlent avec les 220-230 grammes en moyenne.
Comment jugez-vous justement le fait qu'il y ait un poids plus grand, moins de grappes, mais beaucoup plus gros?
Disons qu'on a battu le record de quasiment 70-80%, ce qui est totalement improbable, vu qu'on a toujours battu le record de 1 ou 2 grammes à chaque fois, et d'un seul coup, en fait, on fait quasiment en fait x2 en termes de poids de grappes par rapport à la moyenne décennale. Donc ça, c'est totalement improbable. Je vais pas dire qu'on l'avait prévu, c'est pas vrai, on l'avait pas prévu, on pensait pas que les grappes allaient être aussi grosses. Principalement liées en fait à différentes choses. C'est une floraison qui s'est extrêmement bien passée, donc ça on l'avait vu. Une vigne qui n'a jamais souffert, parce qu'il y a toujours de l'eau au bon moment, donc elle a toujours été alimentée très correctement. Par contre, en fait, le grossissement des grappes d'un point de vue a été extraordinaire, et ça, effectivement, on ne l'avait pas prévu. On tablait plutôt sur 180 grammes, 190 grammes, mais pas 220, pas 230.
Donc on peut dire que grâce à la quantité, notamment le poids du grappe, de la grappe, mais non pas sur le nombre de grappes, ces vendanges ont été exceptionnelles sur ce côté-là?
Bah disons que la quantité a fait que les degrés ne sont pas envolés. Hein. Donc par rapport aux dernières années, on avait avec le réchauffement climatique l'habitude d'avoir des degrés largement supérieurs à 10. Cette année, en fait, on flirte aux alentours de 10 pour les chardonnays, entre 9 et 9,5 pour les pinots et les meuniers. Donc quasiment un degré de moins par rapport à l'année dernière. Mais la vigne n'a jamais aussi bien fonctionné. C'est-à-dire que si on ramène la quantité de sucre produit par la vigne à l'hectare, c'est le record également absolu. Donc on a une vigne finalement qui a très bien fonctionné, les raisins étaient mûrs avec des degrés plus faibles, mais ce rendement extraordinaire en fait nous a permis aussi de trier, parce qu'il y avait de la pourriture grise, de la pourriture acide dans les cépages noirs, et ça a permis d'effectuer un tri qui a été, et ça on doit saluer le travail des vignerons, qui a été fait quand même par une grande partie des opérateurs.
Donc malgré les aléas climatiques qu'on vient de parler il y a quelques instants sur le plan qualitatif, on peut le dire que même sur le côté quantitatif, on est plutôt serein sur la suite, Sébastien de Buisson.
Oui, alors c'est pas une année comme 2022 où tout se passe parfaitement bien, c'est pas non plus comme 2018, mais c'est une année tout à fait correcte, c'est un millésime champenois, il faut se battre un peu. Des chardonnays parfaits, des pinots, des meuniers, donc un peu moins, mais les gens se sont battus pour obtenir le meilleur. Donc c'est un vrai millésime champenois pour ça.
Alors le comité Champagne, avant de nous quitter, Sébastien de Buisson, elle regroupe vraiment une grande partie du territoire de la Marne, mais pas seulement, hein, vous êtes aussi du côté un petit peu de l'Aube. Comment ça se répartit géographiquement le comité Champagne?
c'est dès qu'il y a des vignes dans l'appellation Champagne, c'est le comité Champagne. Donc, c'est 5 départements. C'est la Marne, c'est l'Aube, c'est la Haute-Marne, c'est l'Aisne et puis c'est la Seine-et-Marne. Si on doit se fixer, en fait, on a eu la chance en Champagne cette année, nous, d'avoir des raisins.
Parce que voilà, c'est là-dessus qu'on va raccrocher ce témoignage parce qu'il est l'heure de nous quitter. 18h10, 19h, le magazine régional, ça revient demain.